Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Alpa en direct des cinéastes, le cinéma d'art et d'essai du Mans, pour ce plateau organisé dans le cadre du cycle LGBT des cinéastes en partenariat avec l'association Homogène, le centre LGBT du Mans. Du 28 mars au 3 avril, les cinéastes proposent une programmation autour de la culture queer et de ses combats politiques, 7 films programmés et de nombreuses animations. Le cycle s'est donc ouvert samedi 28 mars avec un bingo en préséance du Rocky Horror Picture Show. On aura peut-être l'occasion d'y revenir avec Nolwenn Lebas, assistante de programmation des cinéastes, mais surtout l'organisatrice de ce cycle. Bonjour Nolwenn Lebas.
Bonjour.
Vous nous expliquerez ce qui nous attend cette semaine et ce soir, lundi 30 mars, c'est donc la projection du film Julian, film belge, premier long métrage de la réalisatrice Cato Kusters avec nous en plateau. Bonjour Cato Kusters.
Bonjour, bonsoir.
Vous nous parlerez de votre parcours et de la démarche cinématographique dans laquelle s'inscrit ce premier film. Et puis quels enjeux autour de ce temps fort sur le cinéma LGBT, rendre davantage visible une culture queer qui se déploie toujours dans les marges, ou mettre en lumière les faits de société et les combats sur lesquels s'appuie cette production artistique. Notre troisième invité nous aidera à dresser un état des lieux des droits LGBT aujourd'hui, mais aussi des violences encore manifestes. Bonjour Rémi Rouziès.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission pour l'association Homogène, le centre LGBT du Mans, en partenariat avec les cinéastes, on le rappelle, pour l'organisation de ce cycle. Pour cette émission, nous serons assistés à la technique par Evan Goetz. Et Evan Goetz, je voulais signaler la fin de l'introduction de cette émission.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Merci beaucoup. Nolwenn Lebas, c'est vous qui êtes chargée de l'organisation de ce cycle. Cela faisait un certain temps qu'il n'y avait plus eu de cycle LGBT aux cinéastes. Qu'est-ce qui a conduit à cette initiative ?
C'est tout simplement une envie personnelle, collective aussi, de relancer en fait ce cycle. Moi, ça fait déjà, depuis mon arrivée ici, il y a plusieurs années, c'était déjà une envie, une idée que j'avais dans la tête. Et je suis ravie de pouvoir le mettre en œuvre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, une envie collective donc dans l'équipe, comme je le disais. Et en fait, on s'est dit que c'était une évidence et quelque chose de très important à l'heure où les droits de la communauté sont menacés, régressent dans de trop nombreux pays dans le monde. Et voilà, face à l'homophobie décomplexée ou tentative d'intimidation, au local d'Homogène qui a été vandalisé plusieurs fois ces derniers mois, si on prend à l'échelle de notre ville. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous paraissait primordial, important de créer cet espace de liberté et de résistance joyeuse, comme on aime dire.
C'est un des termes que vous utilisez dans la description du temps fort, résistance joyeuse. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, résistance joyeuse ?
Pour nous, c'est résister, ça veut dire continuer à montrer des œuvres sur les questions LGBT, les luttes, les droits de la communauté, des droits humains qui devraient être dans tous les pays les mêmes. Mais on est loin de là. Et résistance joyeuse, c'est parce que il n'y a pas que des films déprimants, il n'y a pas que des documentaires qui font froid dans le dos. Alors oui, ça fait partie de la réalité, mais on est aussi sur des beaux portraits, des belles histoires d'amour. Et pour moi, je pense que la résistance joyeuse passe par là aussi, par montrer des films importants, nécessaires, bien faits, et de pouvoir en discuter en fait.
Donc l'enjeu de cette programmation, il est politique, mais pas seulement par le prisme politique en fait.
Non, pas seulement, non, ça peut aussi passer par des récits intimes et des portraits, ça peut aussi s'en extraire un petit peu.
La programmation met donc en avant la culture queer dans sa diversité, une culture qui a son imaginaire propre, c'est une iconographie à part entière en fait.
Oui, quelque part, oui. C'est, j'ai envie de dire que les personnes de la communauté LGBT, en fait, c'est des personnes qui ont toujours été marginalisées, mises de côté. À partir du moment où il n'y a pas de récit pour une partie de la population, c'est des personnes en fait qui ont dû se créer des récits, créer des documentaires pour documenter leur quotidien. Ça va des livres, en passant par le cinéma, mais il y a plein d'autres domaines. Et en fait, c'est représenter d'une manière juste, pas avec du voyeurisme, par exemple. On a des récits, des films qui peuvent être qualifiés d'LGBT, mais qui, honnêtement, ne sont pas faits d'une manière...
Vous pensez à quoi, par exemple ?
j'ai pas trop envie de le citer, mais
d'accord, oui.
Voilà, vraiment avec un regard voyeuriste, un fantasme, par exemple, je sais pas, un réalisateur homme qui va faire clairement le fantasme lesbien sur grand écran, on n'a pas envie de voir ça en fait. On a envie de voir une belle histoire d'amour.
On voit peut-être à quel film vous pensez. Du coup.
Mais voilà, une belle histoire d'amour de manière sensible, avec une intention juste et respectueuse en fait. Mmh. Ouais.
En tout cas, le bal s'est ouvert avec le Rocky Horror Picture Show. Est-ce que c'était seulement possible de trouver un meilleur film que celui-ci pour ouvrir un temps fort sur le cinéma queer, Madeleine Leba?
Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une super soirée. On a eu plus d'une centaine de personnes sur la séance. On avait en amont de la séance un bingo drag animé par Pecnotouf, une drag queer du collectif Manceau Blue Dolls. Et on a vraiment eu une super soirée d'ouverture pour lancer le cycle avec un bar tenu par les bénévoles d'Homogène. Voilà, c'était vraiment, vraiment une belle soirée de rendre le lieu vivant, le hall du cinéma vivant et une belle introduction pour le Rocky Horror Picture Show qui suivait derrière, et beaucoup de personnes dans la salle ne l'avaient pas vu. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment-là avec le public en tout cas.
Et pourquoi il est aussi culte ce film en fait ?
Ah ah, c'était pas gagné. Au début, quand il est sorti, c'était vraiment un échec. Le public n'était pas au rendez-vous, la critique n'était vraiment pas bonne. Mais en fait, ce qui a fait vivre le film et ce qui peut expliquer en fait qu'il soit culte aujourd'hui, c'est les fans. Les fans à l'époque en fait revenaient au fur et à mesure des séances. Notamment déguisé, il se prêtait au jeu avec les personnages du Rocky Horror Picture Show, et en fait c'est en créant cette ambiance-là, ce phénomène en fait à la sortie du film, que le film a perduré. On a eu aussi une continuité dans le temps avec le film est passé dans ce qu'on appelle les séances de minuit, et voilà, c'est vraiment la communauté, les personnes qui se reconnaissaient ou alors voilà qui portaient un amour pour cet univers, qui ont vraiment fait vivre le film et qui explique peut-être l'importance qu'on lui porte aujourd'hui en tout cas. Ouais.
Vous êtes fan aussi du Rocky Horror Picture Show, Cato Costers, Rémi Rouzès?
Alors je l'ai découvert samedi.
Ah, vous faisiez partie de ceux qui l'avaient pas vu.
Alors j'ai été étonné de voir que je connaissais autant de chansons. Je n'avais jamais fait attention en fait que ça venait de ce film là.
La chanson est très marquante.
Ouais, donc j'ai bien ri, j'ai compris pourquoi c'était devenu un film culte. Et alors ça m'a beaucoup fait rire, c'est que j'avais beaucoup d'amis hétéros dans la salle qui venaient parce qu'ils étaient fans du film et qui sont venus déguisés, qui ont chanté. Enfin voilà, on n'a pas souvent l'occasion de voir des films où il y a la moitié du public qui chante sur les chansons. Donc c'était très chouette.
C'est un film très rassembleur, quoi. Cato Costers, vous le connaissiez, vous, déjà ?
J'ai jamais vu. J'ai pas encore vu.
Vous l'aviez pas encore vu ? Ah bah, faut le rattraper absolument. ce soir, c'est donc votre film, Julianne. Alors on va rester encore un petit peu avec Nolwenn Leba autour de la programmation, parce qu'on va revenir dans quelques instants à Julianne. D'abord, Nolwenn Leba, quels sont les autres films à découvrir dans la programmation un peu plus tard dans la semaine ?
Alors, demain soir, on a notamment le film qui s'appelle 24 heures à New York, dans le cadre de la journée internationale de visibilité transgenre. On aura une présentation de la séance par Andy, présidente de l'association Homogène. Voilà, et c'est en fait, c'est un portrait, le temps, comme le nom l'indique, sur 24 heures. On est plongé dans le quotidien en fait, d'un jeune homme trans qui a coupé les ponts avec plusieurs proches, notamment de sa famille, et plusieurs personnes voilà, de son passé refont surface, et il est confronté à des petites des choses du quotidien, quelque chose qui va pas comme on veut, mais comme la vie de tout le monde. Et c'est un film que je trouve très beau sur ce que c'est qu'être trans aujourd'hui, mais pas que, c'est pas que ça. Ce que je disais tout à l'heure sur des belles représentations, je le trouve très pédagogique, vraiment bien fait, très touchant. Mais on est aussi sur voilà, il y a aussi une histoire d'amour qui s'immisce, une relation fraternelle avec sa famille, et je le trouve vraiment très touchant, un très beau portrait sensible en tout cas de ce jeune homme qui n'est pas que trans.
Et un autre film intriguant de la programmation, c'est Lesbian Space Princess. Est-ce qu'on peut en parler un peu ?
Et oui, c'est un super, super film d'animation qui m'a été recommandé par un collègue qui l'a vu à Paris dans un festival. C'est le seul film d'animation de la sélection, qui n'est pas pour les enfants, je le précise. On est vraiment sur un voyage très délirant dans un voyage spatial dans un univers. Voilà, on a aussi une histoire d'amour, entre deux femmes, donc comme le nom l'indique. On a vraiment des couleurs hyper pétantes, acidulées. C'est super drôle, c'est bien fait, c'est plein de références. Bourré d'humour, vraiment. Ouais.
Si vous voulez ajouter deux mots sur les autres films, qu'on a un panorama de la programmation,
ouais,
Gorgona, Carole.
Les deux autres films, tout à fait. Je dis, ça va être Gorgona, qui est vraiment une relecture contemporaine et féministe du mythe de Gorgone par une jeune réalisatrice grecque. C'est un récit d'émancipation. Voilà. Vraiment très chouette si vous êtes curieux et curieuse de le découvrir. Et on finit la semaine avec Carole de Todd Haynes. Une histoire d'amour dans les années 50 aux États-Unis entre Kate Blanchett et Rooney Mara, dont on ne se lasse pas. Honnêtement, moi, j'ai vu ce film des dizaines de fois et je le trouve toujours aussi beau. Et on clôturera la soirée donc avec un quiz sur le cinéma LGBT pour clôturer en beauté ce cycle.
Oui,
ce sera vendredi.
Parce qu'il y a plusieurs activités, effectivement, en marge des projections, ce qui n'était pas le cas des anciens cycles LGBT au cinéaste. Pourquoi c'était important d'animer toutes ces projections ?
Eh ben, tout simplement parce que ça fait plaisir de partager des moments nous dans l'équipe avec les spectateurs et aussi avec les bénévoles d'Homogène. Et je trouve que ça fait vivre, en fait, on est friand, autant dans l'équipe que pour le public, on est friand de ces moments-là, pour s'amuser, découvrir des choses, partager des moments, discuter, c'est créer des espaces, tisser des liens aussi un petit peu. Et je trouve que ça enrichit encore plus une soirée qu'une simple projection, entre guillemets. C'est une rencontre, pouvoir parler, quoi.
Alors, on rappelle que ce cycle, il est en partenariat avec l'association Homogène, le centre LGBT du Mans. Rémi Rouzias, est-ce que Homogène a participé à l'élaboration de la programmation ou comment vous êtes intervenu, en fait, dans l'organisation de ce cycle ?
Alors, on en avait discuté déjà avec Mélouen, mais c'est elle vraiment qui nous a proposé le panorama de la semaine, et on avait toute confiance en elle. On sait qu'elle, on sait justement qu'on n'aurait pas une proposition de film voyeuriste. C'était important pour nous que la culture queer soit mise en avant, et que lorsqu'on est sur des thématiques plus graves, que ce soit les personnes concernées qui racontent. Notamment, Nolwenn a cité 24 heures à New York, qui est projeté demain dans le cadre de la Journée internationale de la visibilité trans. On peut se demander à quoi servirait de mettre encore en avant les personnes trans qui sont plus que médiatisées actuellement. Sauf que, en fait, qui médiatise ? En l'occurrence, actuellement, ce sont des personnes qui sont surtout pointées du doigt par des médias qui ont une vision transphobe. C'était donc important d'avoir un film qui soit raconté par des personnes concernées et qui parle réellement de leur vécu.
Les trans sont survisibilisés aujourd'hui, mais pas dans le bon sens, en fait, c'est ce que vous dites. C'est important d'ailleurs de le préciser, donc 24 heures à New York est projeté dans le cadre de la Journée internationale de visibilité transgenre, mais en fait toute la programmation elle est internationale, ça permet d'avoir une sorte de panorama des luttes LGBT dans le monde, dans le Maine-le Bas.
Oui, en quelque sorte, on a vraiment une diversité des genres, c'est le cas de le dire. Et oui, on a du film belge, on a des États-Unis, on a plusieurs nationalités. Et ce que je voulais rajouter sur 24 heures à New York, on est vraiment sur un récit qui est raconté par une personne concernée. Le réalisateur est trans et l'acteur aussi qui incarne la personne est trans aussi, ce que je trouve assez important aujourd'hui. Alors on peut débattre là-dessus sur est-ce que l'acteur, l'actrice peut tout incarner au cinéma. Moi, je trouve que, enfin, c'est pas là la question. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui sont lesbiennes, gays, trans, mises de côté. Et en fait, ne pas les inclure dans la réalisation d'un film et faire appel à une énième personne et dire bon ben voilà, toi tu vas être trans pour ce film-là. En fait, je trouve c'est pas la question. C'est les personnes qui ont été mises de côté et qui ont du mal à devenir actrices, acteurs, chanteurs de par cette raison-là même. En fait, je trouve ça vraiment vraiment très triste aujourd'hui. En fait, faut les mettre en avant et c'est super en fait que l'acteur ait pu incarner ce rôle-là.
Il faudrait faudrait pas tomber dans le risque inverse, par contre, de cantonner ces gens-là, justement, à des rôles de trans,
oui,
etc.
Oui.
Quoi. Alors, autre caractéristique de cette programmation, la plupart sont des films très contemporains. Donc, si on excepte le classique Rocky Horror Picture Show, réalisé en 1976, le plus vieux film de ce cycle, c'est Carole, qui date de 2015. C'est un parti pris de votre part de rester en contemporain, ou bien ça reflète une réalité de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire ces sujets seraient tout neufs dans le 7e art ?
Alors non, c'est pas forcément tout nouveau. Par contre, on en revient à la question de la représentation. On a des films d'avant 2000 qui en parlent, mais pas forcément d'une manière positive. Ça va être, on va avoir, un personnage lesbien dans un film, mais ça va être un cliché à outrance et pas du tout fidèle en fait à ce que c'est que... Est-ce que c'est que d'être lesbienne ? Alors, il y a plein de prismes, on est tous uniques, mais c'est vraiment cliché, c'est toujours les mêmes, et c'est pas ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est aussi pour ça, et surtout, je voulais, en fait, soutenir les nouveautés qui sortaient. Gorgona, c'est une avant-première, Lesbian Space Princess également. La sortie de Julianne tombait très bien avec la période du cycle, et je trouvais important, en fait, d'être aussi sur les films d'actualité. Et Carole, qui date de 2015, c'est parce que c'est un film culte pour la communauté et je le trouvais important à montrer à nouveau. Mais je ne voulais pas avoir une programmation uniquement avec des films de patrimoine, en tout cas.
Ouais. Oui, il fallait que ça reste un rendez-vous de cinéma, quoi.
Oui.
Un cinéma contemporain. La programmation aborde des sujets lourds, comme le combat d'un jeune homme trans qui doit faire face à ses proches, on en a longuement parlé, mais aussi des moments plus légers, voire délirants, avec Lesbian Space Princess. Donc il y a tout ce mélange des tons. La programmation ne reflète pas seulement la souffrance, les discriminations subies, et même sur les films qui aborde des thématiques graves, on ne tombe pas dans le misérabilisme. Il y a toujours une force, en fait, qui se dégage de ces récits, de ces personnages. Une force joyeuse, une résistance joyeuse, comme on disait tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Vous aurez l'occasion de le découvrir pour celles et ceux qui viendront voir Julianne ce soir. On a quand même, en fait, un beau message d'espoir. On est sur une belle histoire d'amour et ça fait plaisir, en fait, à voir... Tout à fait, oui.
Et donc, parmi les différentes animations qui ont lieu dans le cadre de ce cycle, il y a donc cette émission de Radio Alpa en préséance du film Julianne de Cato Custers. Et c'est le moment de passer à la deuxième partie de cette émission.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Julianne, c'est une adaptation des mémoires de Fleur Pierret, écrivaine, artiste et militante LGBT. Les deux amantes, Fleur et Julianne, décident de se marier. À travers ce mariage, Fleur et Julianne vont s'engager dans un grand projet. Elles veulent se marier dans tous les pays où c'est possible. On en comptait 22 à l'époque des faits. Nina Meurice interprète Fleur et Julianne, le personnage qui donne son nom au film, est joué par Laurence Roussouft. C'est pas facile à prononcer. Et donc derrière la caméra, Cato Custers. On l'a dit, Cato Custers, Julianne est votre premier long métrage, mais vous avez déjà 3 courts métrages derrière vous, dont Finn's Hill, réalisé en 2022, qui remporte le prix du jury du film Fest Gent et le prix du public du meilleur court métrage international au festival de films de femmes. Donc un film sur une relation sensible entre deux hommes dans Finn's Hill. Alors est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce court métrage, il préfigurait Julianne ? Est-ce que c'était déjà un avant-goût de Julianne. Est-ce que vous aviez déjà en tête Julianne à ce moment-là ?
En fait, non. Finn's Hill est plutôt une histoire... Il y a des gens qui ont vu, qui ont traité comme un film, qui ont interprété plutôt comme un film LGBT. Mais au début, c'est un film sur l'amitié, plutôt, et sur deux garçons très jeunes. Et alors, c'est pas forcément... C'est pas forcément leur amour n'est pas forcément traité dans le film. Alors c'est comme tu le regardes quoi. Mais c'est pas forcément un film queer dans mes yeux. Même si je trouve que c'est un peu à la public de voir ce qu'il parce que je trouve ça génial. Qu'il y avait des gens qui ont vu comme ça.
Mais vous étiez déjà dans l'ambiguïté, la confusion des sentiments, en fait. Vous ne vouliez pas déterminer cette relation. Vous vouliez que ce soit ouvert à l'interprétation du public.
Ben, encore, d'abord, c'est un film sur l'amitié entre deux garçons et qui montre comme c'est difficile et comme c'est dur pour eux d'être doux l'un vers l'autre. Et alors oui, la limite avec une relation cuir est assez fin. Et ça, je trouve très beau qu'il y a des gens qui ont traité comme un film cuir et des gens qui n'ont pas du tout vu comme ça. Mais ça dépend aussi de tes habitudes dans laquelle tu regardes le film. Mais ce que tu connais, ce que tu percipes, c'est un mot ? Ce que tu
perçois.
Alors voilà, lui, là, j'ai beaucoup travaillé sur cette ambiguïté. Pour Julian, leur queerness faisait vraiment partie du cœur de l'histoire. Alors c'est quelque chose de complètement différent, j'imagine.
Et alors justement, cette histoire, comment vous y êtes arrivé ? Parce qu'on rappelle que c'est une adaptation des mémoires de Fleur Pierret. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de son histoire à elle ?
Ben, Fleur a écrit en 2019 un super livre qui s'appelle Julian aussi sur leur histoire. Et alors, moi, je l'ai entendu parler sur la radio, sur ce livre. J'étais dans ma voiture et j'ai dû mettre à côté de la route parce que ben, je ne pouvais plus conduire par la façon dans laquelle elle parlait sur sa femme. Et l'amour...
Vous étiez trop émue pour conduire ?
Oui. Et alors voilà, pas loin après, j'ai lu le livre, j'ai rencontré Fleur, qui était déjà un peu, qui a déjà été rapprochée par différentes maisons de production pour réaliser ce film, mais qui voulait pas au début, ou qui était pas du tout sûre. Et alors moi non plus, j'ai lu le livre sans aucun agenda, mais j'ai adoré l'histoire. Et j'ai voilà, je l'ai rencontré comme ça. J'avais 22 ans et on a fait connaissance et de plus en plus, on a continué à parler. Entre-temps, elle avait rencontré un producteur, Michiel Dont, avec qui elle avait quand même construit une relation de confiance. Et je leur ai invité tous les deux pour venir voir mon film de fin d'études. Et c'est vraiment après des mois de se connaître qu'on a vraiment décidé de parler sur l'adaptation de ce livre.
Donc ça a été une aventure collective en fait, ça n'a pas seulement été votre décision.
Non, je ne dirais pas. Mais je suis très très contente, heureuse que ce soit venu sur ma route comme ça.
Et donc vous avez travaillé directement avec Fleur Pierret, même dans le travail de réalisation, elle a été à vos côtés ?
Elle était là, oui. Dès que moi, je suis venue sur le projet quand même, elle m'a dit, écoute, je te fais 100% confiance là. Alors, je vais prendre un peu distance, mais si à un moment, tu auras besoin de moi, je suis là. Et il apparaît que j'ai eu beaucoup besoin d'elle, bien sûr. Alors, elle a lu quasiment chaque version du scénario. Elle est venue sur le plateau plusieurs fois. Elle est venue en montage parce que, tu vois, il y a une réalité de 7 ans de leur vie ensemble. Et tu as à peu près 1h30, 2 heures pour y raconter quelque chose de profond, quoi. Alors, à chaque fois qu'on a dû changer quelque chose par rapport à la réalité, il y avait Fleur avec qui je pourrais vérifier si on laisse ça, si on change ça, est-ce que ça raconte encore en vérité en tes yeux. Et alors, c'était priceless de l'avoir aussi proche.
Oui, il y avait une vraie épreuve au niveau du scénario, effectivement. Comment raconter une histoire d'amour de 7 ans en 90 minutes et d'ailleurs, en fait, la temporalité, le jeu sur le temps, c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé dans ce film.
Mm-hmm. Et aussi un peu suivant le livre, parce que le film n'est pas raconté de manière chronologique. Et on a vraiment suivi le livre dans ça, parce qu'elle commence à... Ben l'histoire ne s'est pas bien terminée, malheureusement. Julian est décédée. Elles ont découvert qu'elle avait le cancer du cerveau. Et ce n'est pas un spoiler, parce que ben, ce n'est pas traité comme un plot point dans le film non plus. Alors, c'est raconté assez tôt dans le film que quelque chose de grave va se passer, mais on saute tout le temps un peu dans le temps. Et c'est comme ça que Fleur avait écrit le livre. Et ça donnait quelque chose de tellement vivant. Et ça nous a permis d'amener la vie dans le mort et l'inverse. Et ça fait aussi qu'on ne perd vraiment jamais Julian. Qu'elle, même à la fin, car on peut sauter dans le temps, elle est encore là. Et c'est, en mes yeux, plus que j'ai lu le livre et que j'étais dans cette matière-là, je me suis rendu compte comment c'était tellement honnête par rapport à la qualité des mémoires, que ce n'est pas quelque chose de chronologique, que ce n'est pas quelque chose de objectif même. Mmh. Et c'est quelque chose que le film... embraces it. Ouais.
En tout cas, cette réflexion sur le temps, elle se traduit aussi par un procédé formel. Je pense à ces passages filmés caméra à l'épaule, enfin caméra à la main par les personnages, qu'on traduit en fan footage en anglais. Pourquoi l'utilisation de ce procédé-là en particulier ?
Là, c'était quelque chose qu'elle faisait dans la vraie vie aussi et qu'on trouvait très romantique, le fait de se regarder comme ça et de... que c'est, ouais, que c'est quelque chose de tellement playful et beau. Mais pendant le processus du scénario, déjà, on a découvert que là aussi, ça raconte tellement sur la mémoire, parce que si on montre une image caméscope et on montre plus tard dans le film, sachant ce que tu sais à ce point-là, cette même image, mais aussi le contexte dans lequel cette image a été créée, c'est la même image, mais qui raconte deux choses complètement différentes. Et... alors ça, on trouvait quelque chose de très intéressant. Alors il y avait 3 ou 4 scènes écrites avec le caméscope. Et c'était Nina et Laurence qui l'ont filmé. Les deux actrices. Mais dès qu'on était en train de le faire, il apparaissait qu'elles se sont tellement amusées à le faire que de plus en plus, on a fait un peu de place dans le planning pour qu'elles puissent continuer à se filmer comme ça. Et à chaque matin que j'ai reçu ces matériaux, parce que moi, je n'étais pas du tout là, je ne savais pas ce qu'elles étaient en train de faire. Et c'était une manière pour elles de vraiment inventer le présent de leur personnage. Et à chaque matin que je les ai reçus, c'était comme un matin de Noël, quoi. C'était incroyable. Et alors, on a beaucoup utilisé en montage à la fin.
Il y a une vraie relation qui s'est construite entre les deux actrices en tant qu'elles incarnaient leur personnage.
Une vraie relation. Elles sont pas amoureuses là.
Oui,
mais
c'est
en une
sorte,
si, elles sont amoureuses. Elles sont vraiment, elles s'adorent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est installé depuis leur premier casting. Et on a vu 400-500 personnes pour les trouver. Et il a vraiment fallu ce temps pour trouver deux comédiennes incroyables, mais qui ont aussi cette alchimie et cette dynamisme entre elles. Mais il n'y a pas une vraie relation amoureuse, mais quand même, elles sont hyper proches.
Et d'ailleurs,
ça se voit dérouler dans ces images caméscope, je dirais.
Et d'ailleurs, sur le casting, puisque vous connaissez la vraie Fleur, ça n'a pas dû être évident de choisir l'actrice qui devait l'incarner. Qu'est-ce qui a porté votre choix sur Nina Meurice, alors ?
C'est vrai que c'était très difficile, parce qu'au début, on s'avait dit que tout le film allait... réussir ou tomber avec ce casting, parce que pour pouvoir compter sur un projet, le projet 22, qui est tellement spécifique et qui n'aurait jamais pu être sans cette dynamique entre ces deux personnes très spécifiques aussi, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui... On n'a jamais voulu faire des imitations parce que j'y crois pas forcément, mais on a voulu trouver des personnes qui rassemblaient quelque chose, et c'est quelque chose de différent pour Nina que pour Laurence, mais qui rassemblaient quelque chose de vrai avec la vraie Fleur et la vraie Julian. Et Laurence en avait trouvé assez tôt dans le processus parce qu'elle connaissait aussi très bien le livre et elle avait vraiment fait ses études sur le personnage, et c'était incroyable parce que elle est entrée dans son premier casting comme Julian. Et là, elle nous a tout un peu... she fooled us very well. Parce que là, je le connais très bien. Elle n'est pas du tout comme Julian. Mais là, elle m'avait vraiment convaincue. Et pour le côté de Nina, on ne trouvait pas du tout Fleur. Alors, on a passé des mois à faire des castings avec Laurence et d'autres personnes. Et on ne trouvait pas. Et là, à un moment, pendant le week-end, j'ai vu Le Ravissement, dans laquelle Nina joue un rôle secondaire. Et elle avait cette lumière dans ses yeux, ces étincelles. Et Fleur, la vraie Fleur, elle a des yeux incroyables, des yeux très bleus, très clairs, où il y a aussi cette lumière. Et c'est bizarre parce que Nina, elle a des yeux très foncés, mais il y avait cette lumière aussi. Et elle avait dans ce film une présence très forte, mais à la fois très lumineuse. Et alors, elle me faisait immédiatement tellement penser à Fleur. Et juste basé sur ce film, on l'a invitée pour venir à Bruxelles pour passer un casting avec Laurence. Et dès qu'elle a ouvert la porte, on savait tous que c'était elle.
C'est étonnant que vous parliez à ce point des yeux. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde le film, on dirait que toute l'histoire est contenue en un instant dans le premier regard que s'échangent Julien et Fleur. Cet instant, il a presque une valeur originelle. En fait, c'est la genèse d'un mythe presque, parce que Fleur et Julien, ce sont devenus des personnages mythologiques pour vous, Cato Custer.
Oui, c'est sûr. Ouais, vous êtes le premier à poser cette question, mais c'est tout à fait ce qui s'est passé. Moi, bien sûr, j'ai passé tellement de temps avec cette histoire, mais c'était quelque chose d'assez immédiat quand moi j'ai entendu parler de ce projet, mais aussi par le récit de Fleur, bien sûr. Mais oui, elles ont toutes les deux une qualité très mythique dans mes yeux. Sinon, tu ne peux pas passer 3-4 ans de ta vie avec des personnages. Alors, pour ce regard, c'est quelque chose que j'ai absolument voulu montrer dans le film, parce qu'au début, on commençait le scénario jusqu'à très tôt dans le processus d'écriture, on commençait l'histoire beaucoup plus tard, autour de leur engagement, ça se dit ? Engagement ?
Oui, leur engagement, oui, on peut le dire.
Et alors, il n'y avait pas ce premier rencontre, mais là, il y a tellement de grands moments dans ce film, dont moi, je me suis dit, mais il y a un public qui connaît à peu près le déroulement, la continuation d'une relation, plutôt. Il y a un premier regard, il y a un premier date, il y a un premier embrassement, et puis, tu vois, on voit quasiment comment ça se déroule, en gros. Mais alors, j'ai voulu quand même montrer ce premier regard, parce que c'est tout à fait vrai que c'est comme le Big Bang de toute l'histoire qui suit. Et alors, il y a comme, parce qu'il y a cette scène, et puis il y a le générique... Et c'est comme dans ce générique, on dépasse 5 ans. Mais j'ai quand même voulu que ce moment soit là, même si chronologiquement, ça n'a aucun sens dans le reste du film. Mais je me suis dit, écoute, le public va pouvoir remplir ces trous qu'on laisse entre les deux. Mais il faut quand même qu'il y ait ce Big Bang, quoi.
Alors, vous nous avez raconté combien de temps vous avez passé sur le casting pour l'actrice de Fleur, à quel point vous teniez à ce qu'il y ait vraiment une véritable alchimie qui se crée entre les deux actrices. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, Fleur, alors, de cette interprétation par Nina Meurice ? Est-ce qu'elle a été convaincue ?
Elle trouvait ça très creepy. parce que oui.
Très effrayant.
Très effrayant, parce que Nina, elle est géniale autant que comédienne. Et où Laurence a plutôt fait ses études autour de Julien en regardant des images d'elle, toutes les cérémonies qui sont captées, qu'on peut trouver en ligne. Et aussi par rapport. Par le livre et par les histoires de Fleur. Mais. Nina a vraiment pu observer un peu Fleur. Et encore, on n'a jamais voulu faire une imitation. Alors, je ne l'ai jamais... On a vraiment basé déjà ce casting sur cette reconnaissance. Mais je me suis toujours dit, c'est comme si Nina et Fleur disent toutes les deux une phrase. Il ne faut pas que ce soit exactement de la même manière, mais que sur un mot, c'est exactement ça. Et si le reste de la phrase n'est pas du tout la même chose... C'est pas grave, parce que ce un mot qui est exactement là, on va le ressentir. Et il y avait déjà cette likeness.
Cette similitude.
Voilà, inscrit dans le casting. Alors après, j'ai un peu laissé, mais il y avait quand même Nina qui a beaucoup observé Fleur et la manière dans laquelle elle utilisait ses mains et qu'elle regardait sa femme. Et alors elle a de petites choses, mais des choses très concrètes qu'elle a décidé de garder pour le personnage.
Alors, on le rappelle, au cœur de cette histoire, un projet extraordinaire, se marier dans tous les pays où c'est possible, c'est-à-dire dans tous les pays où le mariage homosexuel est légal. Dans le film, un personnage qu'on comprend être l'éditrice de Fleur lui fait comprendre qu'elle ferait mieux de trouver un moyen moins cher pour célébrer son droit à se marier en tant que femme homosexuelle. Pourquoi il est important, ce projet, en fait ? Quel sens donner à ces 22 mariages ?
Ben, je pense que Fleur, sauf être activiste et journaliste, qu'elle est aussi, elle est très très, comment dire, marketing.
Elle est très intelligente.
En avant. Elle comprend très bien ce qui marche dans le monde aujourd'hui. Et alors, c'est comme elle dit un peu dans le film. Elles auraient pu juste interviewer toutes les couples de tous les pays et rester chez elles à la maison et faire tout en ligne. Et ça aurait quasiment raconté la même histoire ou ça aurait dévoilé quand même la même problématique. Mais ça aurait resté quelque chose de trop modeste pour faire ce point-là. Alors, ce qu'elle avait très bien compris, c'est que si on ne va pas all the way, si on ne se risque pas complètement, personne ne va nous regarder. Alors, il faut qu'on arrête toute notre vie, qu'on vende toutes nos affaires, qu'on
s'y consacre entièrement. Quoi.
Voilà, exactement. Et c'est ce qu'elles ont fait.
Il fallait que ça parle d'elles deux et d'elles deux précisément pour que ça touche le monde entier. En fait, c'est un peu ça le message. Et c'est un peu votre démarche artistique aussi, parce que donc il y a ce sens éminemment politique du projet de Fleur et de Julianne. Pourtant, votre film, il ne part jamais dans l'élégiaque, le magnificent. Il n'est pas là pour mobiliser les foules. Vous restez toujours dans l'intime, dans la proximité des personnages qui semblent presque coupés du monde, en fait. Ça n'est pas contradictoire avec l'intention de porter un message militant, alors ?
C'est possible que c'est contradictoire, mais moi, je dirais qu'en écrivant ce livre, ce que Fleur a essayé de faire, ce qu'elle a fait aussi, c'est de mettre l'attention sur ce projet et de conserver la mémoire autour de ce projet. Mais ce qu'elle a fait aussi, et ce qui a d'abord frappé tout le monde que moi je connais et moi aussi qui ont lu le livre, ce que le livre fait d'abord, c'est de raconter sur un amour incroyable. Et c'est leur amour qui est fondamentalement militant à la fin. Et c'est ce qu'on s'avait dit au début, qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est d'écrire un mémoire qui fait mémoriser sa femme, qui fait mémoriser leur amour. Et c'était une histoire d'amour tellement pure et tellement symbiotique, et c'est ce qui montre comme, en fait, l'amour est un moteur pour faire du bien. Et je pense que ce qu'elles ont fait l'une pour l'autre, c'est qu'elles se sont rendues plus fortes, plus courageuses. Et à la fin, un militantisme, si c'est profond, c'est toujours parce que c'est personnel. Si ça agit toi ou quelqu'un que tu adores. Et c'est de voir comment il y a un système qui peut presser sur quelqu'un que tu aimes et de vouloir changer le monde pour cette personne. Mais il y a d'abord cette relation. Et on s'avait dit que si on peut vraiment montrer cet amour dans toute l'intimité qu'il a, c'est là où on va vraiment pouvoir militariser aussi le public qui connaît déjà, qui s'occupe déjà de cette thématique-là, mais aussi un public qui ne savait pas que c'était une histoire d'amour qui leur concerne aussi.
Je pense que militariser, peut-être pas le bon terme, politiser plutôt, je pense que c'était plus ce que vous vouliez dire.
Oui, ou de faire bouger, quoi.
On va passer, je pense, à la troisième partie de cette émission. Il est temps d'aborder le sujet des droits LGBT aujourd'hui, entre avancées obtenues à force de batailles militantes et parlementaires et recul annoncé par la montée de discours réactionnaires et d'extrême droite. C'est la troisième partie.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
Alors, un petit rappel historique d'abord, pour rester pour le moment sur la thématique du mariage. Le PACS s'est d'abord instauré en 1999 sous Lionel Jospin. Il permet une union légale entre personnes de même sexe. Puis vient le mariage pour tous en 2013, voté après 136 heures de débat à l'Assemblée et qui donne lieu en réaction à la Manif pour tous, collectif d'extrême droite opposé au mariage pour les personnes de même sexe. Bilan, 10 ans après cette loi, donc en 2023, ce sont 70 000 mariages homosexuels qui ont été
célébrés, ça représente 3% des mariages civils. Rappelons également que le mariage ouvre la possibilité d'adopter un enfant, mais entre 2013 et 2023, seulement 200 familles homoparentales ont réussi à adopter. En 2021 vient la loi bioéthique qui ouvre la PMA aux couples homosexuels, dont la procréation médicalement assistée. Quant à la gestation pour autrui, elle reste formellement interdite en France. Il reste donc des difficultés concrètes en France pour fonder une famille quand on est gay, Rémy Rouziès, ou LGBT.
Oui, toujours. On a pu voir effectivement que la PMA est ouverte en 2021. Elle ne prend pas en compte toutes les personnes, puisqu'elle exclut des personnes qui sont en capacité de porter. Elle les exclut aussi parce qu'elles n'auraient pas le bon genre à l'état civil. On a aussi le fait que cette loi propose aux couples qui étaient passés par des PMA médicales à l'étranger de régulariser leur situation jusqu'en 2024, ce qui est assez court hein, en termes de délai, mais ça ne concernait que les couples qui étaient passés par des PMA médicales en Europe, ce qui ne concernait pas du coup tous les couples de femmes, dont certaines ont été obligées donc de continuer à passer par l'adoption de leur propre enfant, ou alors qui ont été contraintes aussi de devoir se marier avec leur ex-conjointe, puisque parfois il y a aussi des séparations, afin de pouvoir permettre l'adoption de l'enfant et de pouvoir donner des droits à l'autre maman. Donc on voit qu'il y a des problématiques. La GPA reste interdite en France. Cependant, l'État français a été contraint d'autoriser, a été contraint de donner un acte de naissance à ses enfants, ce qu'il a refusé de faire pendant un moment. Ça contrevenait complètement à la Convention internationale des droits de l'enfant.
Donc il y a des enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance.
En tout cas, oui, voilà, qui n'avaient pas de reconnaissance civile et donc qui n'étaient pas protégés. Donc ils ont été obligés de changer cette loi et de reconnaître le père biologique. Le père biologique peut du coup ramener son enfant, faire en sorte qu'il soit français. Voilà, ça protège pas tout le monde dans le couple, mais ça permet d'avoir un minimum de droits. Ça permet le fait que les couples soient mariés, on peut aussi adopter l'enfant de l'autre conjoint. Après, il y a quand même des différences hein, dans la loi bioéthique, notamment en termes de reconnaissance des enfants. C'est très décrié par des associations comme l'association des parents gays et lesbiens qui réclament régulièrement des modifications de la loi, puisque par exemple, un couple hétérosexuel qui passe par une PMA va reconnaître l'enfant à sa naissance. Là où un couple lesbien va devoir le reconnaître avant la conception. Donc il y a plein de couples lesbiens déjà qui se font avoir, qui sont du coup obligés d'adopter leur enfant parce qu'en fait ils ont loupé le coche. Il y a aussi des problématiques en termes de protection des deux personnes du couple. On sait qu'une PMA, ça peut être très long, il peut se passer plusieurs années. Le fait de reconnaître l'enfant avant conception, c'est aussi prendre le risque que si le couple se sépare, il y en a un qui continue sa route et qui va en fait poursuivre cette PMA jusqu'au bout et qui peut après réclamer des pensions alimentaires, enfin des devoirs à l'autre parent. Donc c'est aussi, voilà, c'est des situations comme ça qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout été prises en compte et qui posent problème en fait dans la protection des familles.
Alors pour relier quand même donc au film Julian de Cato Custers, donc à l'époque où Fleur Pierret écrit ses mémoires, 22 pays ont légalisé le mariage homosexuel. Depuis, il est légal dans 39 États, dont 16 dans l'Union européenne. Donc malgré les réserves que vous venez d'évoquer, est-ce que la France et plus globalement l'Europe reste une terre de droit pour les LGBT?
Je dirais oui et non, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on détermine qui est LGBT selon le droit européen, parce qu'on pourrait aussi citer des lois sur l'immigration et le durcissement des procédures d'asile. Or, par exemple, aujourd'hui en France, le deuxième public qui est accueilli dans les centres LGBT, ce sont les demandeurs d'asile. Donc c'est bien aussi de rappeler que ce sont des personnes LGBT qui fuient des persécutions et qui, justement, espèrent atteindre l'Europe pour être protégés. Oui, on a une évolution très nette hein, du droit européen qui protège. Je rappelle que les lois européennes sont au-dessus des lois françaises. En novembre dernier, il a été convenu que l'ensemble des pays européens devaient reconnaître tout mariage de citoyens européens au sein de leur pays, même si ce pays ne permettait pas le mariage. Donc on va certainement avoir des législations qui vont être obligées de bouger, hein, y compris en France, puisqu'en France, par exemple, on ne reconnaît pas le genre neutre. Or, en Allemagne, le genre neutre existe. Donc si, si deux Allemands ou un des deux du couple a le genre neutre, il va bien falloir le reconnaître, enfin reconnaître ce mariage en France. Donc ça va aussi avoir des répercussions sur l'état civil français. Après, on voit malheureusement aussi des reculs. On pourrait citer le cas de l'Italie, hein, concernant la reconnaissance des enfants. On pourrait citer les zones anti-LGBT qu'on a pu voir en Pologne, l'interdiction des marches de fierté qu'on a pu voir en Hongrie. On voit quand même qu'il y a des reculs, donc il faut quand même être assez vigilant sur ça.
La police et l'agent... Allez-y, Katogasa.
Non, c'était quelque chose de bref, mais si je ne me trompe pas, il y a les listes des pays les plus LGBT-friendly et que la France est en train de baisser aussi. Alors chaque année que la France baisse un tout petit peu.
C'est un rapport publié par qui, ça ?
C'est un rapport de l'Union européenne, hein, effectivement. La France a considérablement baissé. Elle était cinquième en 2017. Aujourd'hui, je crois qu'elle est
15e.
En tout cas, elle a considérablement baissé, et notamment pour deux raisons. Le fait qu'elle refuse toujours l'interdiction des mutilations sur les enfants intersexes, et le fait qu'elle ait durci ses lois, justement, sur l'accueil des demandeurs d'asile LGBT.
La police et la gendarmerie ont enregistré 4800 infractions anti-LGBT en 2024, un chiffre trois fois supérieur à celui de 2016. Ça représente une augmentation de 5% entre 2024 et 2023. C'est une augmentation moins forte que les années précédentes, avec 15% d'augmentation en moyenne par an entre 2016 et 2023. Ça reste une augmentation quand même. Par ailleurs, on rappelle comment le centre homogène a été dégradé par trois fois depuis décembre. Quel est l'état d'esprit des LGBT aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous constatez, en tout cas, au sein de l'association homogène, au sein de votre public ?
Déjà, je constate que il faut prendre avec des pincettes, hein, ce chiffre qui nous vient du...
4800 infractions.
Voilà, qui nous vient du ministère, parce que beaucoup de personnes LGBT ne portent pas plainte, et notamment les plus précarisées d'entre elles, c'est-à-dire les personnes transgenres qui sont souvent victimes de transphobie dans la rue, et pour qui c'est compliqué d'aller porter plainte parce que pas les bons papiers, par exemple, ou que c'est compliqué de se dire que c'est parce qu'on est trans qu'on a été attaqué. C'est mentalement trop compliqué de reconnaître que c'est pour ce motif qu'on a pu être attaqué. Ça va être les demandeurs d'asile, beaucoup, qui sont attaqués dans la rue et qui ont vécu en fait tellement de violence dans leur pays que, oui, d'accord, ils se sont fait cracher dessus dans le tramway, mais c'est toujours mieux, entre guillemets, que d'être immolé. On en est là, avec une vraie crainte des institutions de la police ou de la gendarmerie. Ce sont des gens qui viennent souvent de pays où la corruption est très très forte, où la police n'est pas intervenue lorsqu'il y a eu parfois des tentatives de meurtre. Donc il y a une vraie méfiance vis-à-vis de ces institutions. On pourrait aussi citer un troisième public qui sont les victimes de guet-apens homophobes, donc des personnes gays souvent qui sont sur les applications de rencontres et qui, en fait, en invitant quelqu'un chez eux, se retrouvent finalement avec 3-4 souvent jeunes qui viennent voler leur portefeuille, leur portable, et qui leur disent: en fait, on est mineur, ce qu'ils n'avaient absolument pas dit sur les applis. Donc, si vous portez plainte, vous êtes pédophile. Et ça les empêche aussi de porter plainte. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout le cas, ça ne les empêche pas du tout. Mais il y a cette crainte aussi.
Le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité est mis en œuvre dans les écoles, collèges et lycées depuis la rentrée 2025. Ce programme prévoit de sensibiliser sur le respect dû à chacun, peu importe son identité de genre et son orientation sexuelle. Et dans le programme pour le lycée, on peut lire les objectifs suivants. À partir de témoignages, prendre conscience que l'identité de genre peut ne pas correspondre au sexe biologique, reconnaître la diversité humaine dans son ensemble en considérant la variété des orientations sexuelles et des identités de genre. Ça peut changer les choses d'aborder ces questions au lycée à travers la médiation d'un professeur ou d'associations, peut-être même comme la vôtre.
Ça change les choses quand même. Ça permet de sensibiliser à cette réalité. Ça permet de lutter contre le harcèlement. Ce que je trouve très bien dans ce programme, c'est que désormais, c'est l'éducation nationale, hein, qui tape vraiment du poing sur la table et qui oblige les établissements à s'emparer de ces questions. Après, c'est pas nouveau, hein. Je rappelle que ça fait depuis 2002, normalement, qu'il est censé y avoir 3 interventions par an sur la question de la vie affective et sexuelle. Mais là, au moins, ça a fait tellement grand bruit que les établissements ne peuvent pas fermer les yeux. Pour autant, il n'y a pas de moyens qui ont été donnés aux établissements. On a aussi des professeurs qui n'ont pas eu de formation plus que ça sur ces programmes, qui ont toujours des programmes disciplinaires très chargés et qui se demandent bien comment ils vont faire pour trouver le temps. On a aussi, faut le dire, certains milliardaires, hein, on pourrait citer le cas de Monsieur Sterrin qui a investi très grandement dans la plateforme Lift qui est en train d'infiltrer l'éducation nationale. Donc ce sont des capsules vidéo pédagogiques.
On précise Pierre-Edouard Sterrin, fondateur du programme Périclès.
C'est ça, qui est très anti-avortement, qui vise à recristianiser la France, qui veut des naissances de Français de souche européenne. Donc voilà, on est quand même sur ce type de programme très inquiétant.
Qui se dit lui-même plus à droite que l'extrême droite.
C'est ça.
C'est ces mots.
Et qui du coup a investi dans cette plateforme. Et en fait, on a plein d'établissements, publics comme privés, qui se font avoir, qui utilisent ces capsules, mais qui en fait derrière financent ce projet. Donc ça reste inquiétant quand même.
Mais alors justement, parallèlement à ces efforts qu'on peut voir par exemple à travers ce programme d'éducation, on assiste effectivement à la montée de discours d'extrême droite, discours masculinistes également très présents sur les réseaux sociaux. On constate que les mises en cause des actes LGBTphobes de 2024 sont principalement des hommes et également des jeunes de moins de 30 ans, donc le public cible du masculinisme en fait. Est-ce qu'il y a une bataille culturelle à mener? Comment amener un contre-discours efficace sans tomber dans la propagande LGBT invoquée par les voix réactionnaires? Et je me permets de contextualiser encore un peu plus. Le Rassemblement national représente 27% des intentions de vote de l'électorat LGBT, ce qui le place en tête de cet électorat.
Oui. Nous, ça reste effectivement quelque chose qui est questionnant pour nous. On voit aussi comment le Rassemblement national a tendance à surfer sur cette politique sécuritaire qui rassure hein, une partie de l'électorat LGBT, mais qui est séduit par ce discours sécuritaire, ce qui montre quand même ce sentiment d'insécurité qui se développe, mais pour autant qui ne va pas regarder derrière les votes qui ont été votés, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou que ce soit au niveau du Parlement européen. Donc nous, tout en étant quand même à partisans, on reste quand même très au fait des votes de chaque parti. Et on rappelle quand même que tous les projets de loi qui sont censés protéger les personnes LGBT, le Rassemblement national a toujours voté contre. Donc à un moment donné, il faut faire aussi le point sur ça. C'est bien d'avoir envie d'être en sécurité. Et on ne jugera pas quiconque se sent en insécurité et qui a envie d'avoir plus de sécurité. Après, en revanche, est-ce que des personnes qui votent contre des droits, y compris fondamentaux, hein, je rappelle qu'ils ont voté, par exemple, contre l'interdiction des thérapies de conversion, ça nous pose vraiment question.
Il nous reste un petit peu de temps. Je voulais vous poser une question, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la propagande LGBT qui est relayée par plusieurs voix réactionnaires. Ces accusations-là de lobby LGBT, de propagande woke, etc. Elle est beaucoup ressortie après la cérémonie des JO 2024. Beaucoup de réactions hostiles qui étaient sorties de la part de personnalités politiques, de la part de l'extrême droite, mais aussi des républicains. Cette cérémonie, est-ce qu'elle a tout de même donné de l'espoir à la communauté LGBT, un sentiment de reconnaissance? Ou alors, il ne faut pas trop non plus tomber dans l'illusion des paillettes?
Alors déjà, je vais revenir sur les termes, hein, parce que on avait entendu beaucoup dans les années 2013, au moment de la manif pour tous, le terme lobby LGBT. Donc c'est retombé un peu parce que depuis, on a eu le mariage, il y a eu la création des familles, donc les gens ne parlent plus de lobby LGBT, c'est plus vraiment un terme qu'on voit. Mais du coup, il y a un nouveau terme qui est apparu, donc maintenant c'est woke, mais derrière, ce sont les mêmes personnes qui sont profondément homophobes. Cette cérémonie d'ouverture, il n'y a pas que les personnes LGBT hein, qui ont été visées, hein. On pourrait aussi parler du racisme qui s'est beaucoup développé. Nous, on a trouvé ça bien, vraiment, que cette diversité culturelle ait pu être présentée, parce que c'est aussi ça, la France, hein, c'est toute une diversité culturelle, c'est pas que le patrimoine architectural. Après, oui, il faut faire attention, en revanche, au pinkwashing. C'est-à-dire que autant le metteur en scène de toutes ces cérémonies et
Thomas Joly.
Voilà, on a toute confiance en lui. On sait que voilà, c'était vraiment la volonté aussi de montrer cette diversité culturelle qui fait la France. En revanche, faut pas se leurrer sur le pinkwashing aussi parfois de certaines mairies qui vont surfer sur cette espèce de tourisme gay. Après, il faut alors il y a des vraies actions hein, quand même qui sont menées de sensibilisation du personnel de mairie, du personnel et pas forcément que derrière les bureaux aussi. Hein. Mais voilà, ça ne doit pas être que des paillettes et que de la façade.
On arrive à la fin de cette émission. Je vais demander une nouvelle virgule à Evan Gates.
107.3 FM Le Mans.
Radio Alpa.
Radio Alpa.
L'alternative.
C'est bientôt l'heure de prendre place dans la salle des cinéastes pour assister à la projection de Julian. Le cycle LGBTQIA+ des cinéastes continue jusqu'au 3 avril avec les projections de 24 heures à New York, Lesbian Space Princess, Gorgona et Carole. Infos et réservations sur les-cinéastes.fr. Merci Nolwenn Lebas, assistante de programmation aux cinéastes, organisatrice du cycle LGBTQIA+ aussi. Cinéaste.
Merci.
Merci à Rémi Rouzias, chargé de mission de l'association Homogène Centre LGBT du Mans.
Merci.
Et merci à Cato Custers, réalisatrice de Julian, son premier long métrage.
Merci à vous.
Et merci également à Evan Gates pour la technique. Il n'a pas de micro pour dire merci en haute voix. Merci aux cinéastes et à l'association Homogène pour
merci.
Super. Merci aux cinéastes et à l'association Homogène pour leur confiance et leur concours à la réalisation de cette émission que vous pourrez prochainement retrouver en podcast sur notre site radioalpa.com. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur Radio Alpa.